Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravis de terminer cette semaine avec vous. On vous attend bien sûr nombreux au 32-16 et sur l'application RMC pour réagir à tous nos sujets, pour réagir également aux propos de tous les chroniqueurs présents autour de la table aujourd'hui, et notamment Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Perico Légas, qui s'est fait très beau pour venir sur le plateau aujourd'hui. Ça va Perico?
Oui, de temps en temps, j'ai besoin de vous faire plaisir.
Oui, eh bien cela me réjouit Perico. Nous sommes avec notre militant associatif préféré, Pierre-Édouard Magnan. Ça va Pierre-Édouard?
Ça va très bien.
On va parler des salaires des grands patrons, dites donc.
Je m'en réjouis d'avance.
Eh bien j'imagine. Ah bah tiens, on va parler des soignants non vaccinés. Laurent Andrieux.
Chef aussi, oui.
Bonjour, chef du service culture de valeurs actuelles. Bonjour Laurent. Au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, grosse tension à l'Assemblée nationale autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Faut-il les réintégrer? On vous attend au 32-16. À midi et demi, on parlera de l'augmentation record. 52% d'augmentation pour les grands patrons du CAC 40. Faut-il s'en réjouir ou le déplorer? À 13h, les mineurs privés de trottinettes électriques en libre service à Paris et dans d'autres grandes villes. Faut-il aller encore plus loin et interdire ces engins pour tout le monde? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, le journal décalé de Paul Lassène qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. Et puis à 14h, un Français sur quatre serait prêt à manger de la pizza à Noël. Est-ce un sacrilège ou au contraire un symbole de modernité? Doit-on en finir avec les traditionnels dinde et chapon? Dites-nous, tiens, comment ça va se passer chez vous pour le réveillon? Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec les tensions du jour. Ce sont celles qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale hier soir autour du débat sur la réintégration des soignants non vaccinés. Cette proposition de loi portée par LFI a failli passer mais la majorité a fait obstruction. Conséquence, une ambiance très houleuse sur les bancs de l'Assemblée. Écoutez Olivier Véran, ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement.
Prenez le micro madame, demandez la parole à la présidente. Vous me hurlez dessus. C'est... En fait, venez. Descendez. Encore une fois. Madame la députée, descendez, prenez le micro, si la présidente est d'accord, moi je vous le laisse volontiers. Vous hurlerez dans le micro, ça évitera d'hurler dans les travées. Je vous le redis, les soignants ont eu des dérogations pour travailler dans les services Covid, où les patients étaient contaminés par le Covid. Bref. Encore une fois, le débat est légitime, je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, telles que les couvre-feux, les confinements ou pourquoi pas le quoi qu'il en coûte.
Voilà, grosse tension hier soir donc à l'Assemblée nationale. Rémi, pour en savoir plus sur ces soignants non vaccinés, ça représente quoi aujourd'hui? On a entendu des chiffres comme 15 000, mais c'est pas du tout ça en fait.
Non, pas du tout 15 000 personnes, comme c'est encore trop souvent dit. 15 000 soignants non vaccinés. En fait, ce chiffre date d'octobre 2021, un mois après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et quelques jours avant la date limite ouvrant la porte aux suspensions. C'est le ministre de la Santé de l'époque, on vient de l'entendre, Olivier Véran, qui avait donné ce chiffre de 15 000 soignants non encore vaccinés, ce qui représentait à l'époque 0,6% de la totalité du personnel. Aujourd'hui, c'est nettement moins. Dans un récent communiqué, le président de la Fédération hospitalière de France, Arnaud Robinet, parlait de 4000 personnes, dont environ 500 infirmiers, suspendus sur un total d'1 200 000 agents. Exemple concret, au CHU de Nice, selon la direction interrogée par le journal Libération, près de 450 personnes avaient été suspendues par la direction de l'hôpital dès septembre 2021 pour non-vaccination ou vaccination incomplète. 450 agents sur un total de 7500, ça c'était il y a donc un peu plus d'un an. Aujourd'hui, sur les 450. Ils ne sont plus que 11, 7 soignants et 4 personnels des services administratifs ou techniques, ce qui représente 0,1% des effectifs du CHU de Nice.
Alors, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? On vous attend au 32-16. Je vais commencer avec vous, Perico Légas.
Alors d'abord, j'étais à l'Assemblée nationale hier après-midi pour le débat sur la tauromachie.
Non.
Et ben je suis allé voir ça, un spectacle hallucinant. Le spectacle était dans l'arène, c'est pour vous dire. Avec, bon, c'est dommage qu'on on le fera peut-être un jour. Je pense que ça reviendra. Faut-il ou pas, faut-il. Vous l'avez fait hier?
Oui.
J'étais pas là. Pour vous dire que vraiment, c'était déjà surchauffé. Voilà. Marie Caron, voilà, les invectives. C'est étonnant, quoi. Alors, est-ce que les représentants de la gauche doivent pour autant représenter ce que j'ai dit, le côté populaire, la ferveur? Le sujet est réel sur l'intégration. C'est vrai que de la part du gouvernement. Alors, on serait encore en pleine épidémie virulente. Je comprendrais qu'on prenne des mesures contre des gens qui pourraient présenter un danger potentiel. Enfin là, le dossier est classé. Mmh. Ces gens-là devaient être tous réintégrés.
Et ça me semble.
Ah oui, voilà.
Mais non, mais pourquoi? Vous avez
parce que
tous
c'est
les
fini, présent.
Qu'on fait l'effort de se vacciner.
Oui, mais
c'est fini, la bataille est terminée. On va pas, à un moment donné, on a même amnistié les collabos, je vais vous dire, en 45. C'est extrême ce que je dis.
Ah oui,
mais là,
extrême,
d'accord. Bon, bah alors là, parce qu'ils sont pas vaccinés, ça y est.
D'accord. Donc tout le monde s'est vacciné. Donc, tout le monde a suivi la loi, il n'y avait pas de problème. Eux, ils sont pas vaccinés et on les réintègre. Bah, c'est formidable. Comme
c'est fini.
Comme si rien s'était passé.
Et finalement, peut-être qu'ils avaient raison.
Ah.
Non, je sais pas.
Ben
oui. Non, moi je me suis vacciné, je suis pour la vaccination.
Ben oui.
Mais aujourd'hui, voilà, le flou est assez certain par rapport à au risque de contamination ou pas. Ce sont des gens qui étaient dans le métier médical.
Mais ils sont anti-science.
Mais ils ont été punis, ils ont été sanctionnés. Donc c'est quoi, c'est prison à vie pour vous? Vous êtes pour la peine de mort?
Non, pas du tout. Mais si vous demandez aujourd'hui aux soignants, dans une très très grande majorité, ils sont contre la réintégration de ces soignants.
Ils ont été sanctionnés. Ils ont payé, ça y est, pendant 2 ans. C'est 2020, on est en 2022. Je pense qu'on peut tourner la page et passer l'éponge, me semble-t-il. Surtout s'ils sont que 4000. Voilà.
Bah c'est justement s'ils sont plus que 4000. Ouais. Donc
la NUPES, qui est quelquefois excessive ou outrancière, sur la forme, je partage pas la façon de se hurler dessus, surtout dans un parlement démocratique comme l'Assemblée nationale française. Voilà. Mais sur le fond, ils ont raison. Et monsieur Olivier Véran qui donne des leçons de comportement. Alors, monsieur Catastrophe. Non, mais profil bas. Alors, maintenant, d'ailleurs, il devait sauter du gouvernement. Il s'est rattrapé aux branches. On l'a mis aux relations avec le Parlement. Il devait dégager. Donc voilà.
Bon. Laurent Dandrieu, est-ce que vous comprenez que ça suscite encore autant d'émotions ce débat?
Franchement, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, les soignants non vaccinés n'ont jamais été suspendus. Mmh. Jamais.
D'accord.
Bon, en Italie, où ils l'ont été, aujourd'hui, on considère que 2 ans après, comme l'a dit Perico, il est temps de tourner la page, on vient de décider de les réintégrer. Je ne comprends pas cette obstination qui n'a aucune raison rationnelle, si ce n'est qu'on en fait une affaire de morale. Il faut les punir. Bah oui, mais je suis désolé, la morale n'a rien à faire là-dedans.
Certes, tu ne fais pas confiance en la science, tu ne fais pas confiance en la science. Bah si, je suis désolé.
J'en ai ras-le-bol d'entendre ça, parce que moi j'en connais plein des soignants non vaccinés. Il n'y en a
pas plein, puisque c'est
0,1%
des... C'est que vos amis.
À l'échelle de mon...
Incroyable.
J'en connais plein, ça veut dire que j'en connais,
moi, j'en connais pas, oui.
Plusieurs. Ouais. Bah oui, bah c'est justement, bah c'est peut-être pour ça qu'on répand cette légende comme quoi ce serait tous un ramassis de complotistes, obscurantistes. Moi, ce que je connais, j'en connais 4 ou 5, voilà. D'abord, je pense qu'on sous-estime le nombre parce que on ne compte plus ceux qui ont décidé de changer de métier suite à cette affaire. Donc, en fait, ils sont quand même plus nombreux que ça.
Bah, ils ne devaient pas être très attachés à leur profession.
Si, mais ils aiment pas le chantage, voilà. Et ensuite, moi, ce que je connais, ils ont tous leurs autres vaccins, donc ils sont pas anti-vax et ils sont pas anti-science. Ils ont juste un problème avec ce vaccin-là, la façon dont il a été imposé dans l'urgence. Après, il y a plus aucune raison sanitaire
sanitaire non, parce que t'as pas plus de chances de contaminer si d'être d'accord.
Et donc, comme disait Perigo, on va les punir à vie.
Mais non, mais c'est aussi une histoire de morale. T'as tous les soignants. Mais non, mais
ça, évidemment. Vous avez raison.
Mais non, t'as tous les soignants.
Si on va sur le secteur de la morale.
Mais attends, t'as tous les gens qui ont accepté, parfois à contre-cœur, de se faire vacciner. Et eux, ils n'ont pas accepté. Tu devrais les réintégrer comme si rien ne s'était passé.
Donc, il faut supprimer, par exemple, l'amnistie du droit français, parce que c'est pas moral. Tout à coup, on amnistie des gens qui ont été condamnés, c'est pas moral. Je suis désolé, il y a un moment où, dans une société, on décide de passer l'éponge sur un certain nombre de trucs.
Ah ça bon, fait
c'est ce que j'ai dit, j'ai pris un cas extrême.
Donc vous passez l'éponge, vous écoutez
bien sûr. C'est le bon sens, tous les autres pays le font, il n'y a que nous.
Surtout que c'est nécessaire. Vous avez vu dans quel état est la santé.
Excusez-moi,
c'est urgent.
Mais on parle de quoi? On parle de 0,1% des
soignants. On a besoin du moindre, d'être soignant. Vous avez vu dans quel état
le président de la Fédération hospitalière de France dit franchement, c'est pas ça qui va changer la situation de l'hôpital.
L'hôpital est devenu un merdier sans nom, on a besoin de tout le monde.
Mais c'est pas parce que tu vas réintégrer 13 personnes.
C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça. Oui, bon. C'est un gosse qui meurt dans les bras de son père. Il y a pas que soignant.
Vous avez raison de prendre ce genre d'exemple.
Et puis il
n'y
a pas que soignants. Il y a les pompiers. Il y a des tas d'autres professions qui sont concernées aussi.
Pierre-Edouard Magnan.
J'ai entendu un son de cloche différent.
J'écoute avec effectivement beaucoup d'intérêt. Il se trouve que je suis allé à l'hôpital hier parce que j'ai accompagné ma fille à un rendez-vous. Et quand on rentre dans un hôpital, par exemple, on est tous encore obligés de mettre un masque.
Exactement.
En l'occurrence, ma fille, qui en plus est autiste, le port du masque est quelque chose de compliqué pour elle parce qu'elle le vit de manière très difficile. C'est une obligation, elle s'y est soumise. La loi n'est jamais un chantage. Enfin, je veux dire, à partir du moment où la loi oblige, a dit, on oblige à la vaccination, se soumettre à la loi, surtout quand la loi a été décidée de manière démocratique par des instances représentatives dont personne ne contestait la légitimité à l'époque, ouais, pas plus que celle d'aujourd'hui d'ailleurs, ben on se soumet à
je
la loi.
Mais ils se sont soumis, ils ont payé.
Et en plus, moi je trouve que ne pas se vacciner de la part de personnel soignant,
oui,
ils ont un niveau de responsabilité et de prescription, c'est le cas de le dire, qui est plus fort que le reste de la population.
Mais sauf que cette obligation de se vacciner, elle reposait sur l'idée que le vaccin empêchait la transmission. Aujourd'hui, on sait que c'est faux.
Mais moi, ça m'embêterait. Et souvent, en fait, Laurent, mais en fait, ça veut pas dire que c'est pas un bon médecin, mais je pense que ça me gênerait, oui, quelque part d'être soigné par quelqu'un qui
a eu raison avant tout le monde.
Non, qui n'est pas vacciné, ça veut, parce qu'il ne croit pas. Enfin, ça me gênerait.
Il faut pas dire ça parce que le problème, c'est entendu, on envoie dire rien. Le vaccin sert à rien. La vaccination.
On est bien d'accord.
La raison.
La vaccination est un outil merveilleux. En plus, on est dans un pays où déjà la réticence à la vaccination est une des plus fortes.
Mais bien sûr, les gens font jamais un rappel.
Et donc, il faut d'autant plus insister, d'autant plus rappeler que oui, la vaccination, c'est mieux que la non-vaccination. Il n'y a aucun débat là-dessus.
Mais on ne discute pas du bien fondé de la vaccination. Je dénonce ce qu'ils ont fait. Ils ont été punis, c'est bon.
Quand des professionnels
c'était le premier à aller contre les non-vaccinés il y a un an.
Mais à l'époque, oui, et leurs sanctions étaient méritées. Je dis aujourd'hui, 25 novembre 2022, c'est bon, ils ont payé. Tu devrais expliquer à tes copains de la NUPES qui hurlaient en assemblée. Ah, mais va les voir. Explique-leur.
Méfie-toi, je vais aller monter en haut.
Mais bien sûr. Alors là, je vois que la gauche est encore plus divisée, quand même. Heureusement que Laurent et moi sommes là pour le bon sens français, un tout petit peu.
Je me contente de défendre la loi. M'étonne d'être le seul.
Ouais, pas toujours, hein. Pas toujours.
C'est que... Non, mais sauf que moi, là où je parlais de chantage, c'est qu'en fait, cette obligation, qui, à mon avis, ne ressort, c'est pas de la loi, hein, mais cette obligation a été imposé au nom d'un mensonge, c'est-à-dire que c'était pas vaccinez-vous pour vous protéger vous, ce qui là pour le coup personne ne conteste que le vaccin protège les gens qui sont vaccinés, ça il y a pas de discussion. Mais l'obligation des soignants à l'hôpital, elle était motivée sur le fait que le vaccin était censé protéger les autres. Or ça c'est faux. Et les gens qui ont dit nous on veut pas parce que ça ne protège personne et si on n'a pas envie de se protéger nous c'est notre affaire. Ces gens-là avaient raison.
En même temps, quand ils refusaient à l'époque, ils n'en savaient rien non plus.
Oui, en plus. On est avec Julie, qui nous appelle de Saint-Géron, dans l'Ariège, et qui est kiné libérale. Bonjour, Julie.
Oui, bonjour.
Et Julie, vous êtes en faveur de la réintégration des soignants non vaccinés. Est-ce que vous-même, vous faites partie de ces soignants?
Tout à fait, oui.
D'accord.
Voilà. Non, moi, je souhaiterais juste, si possible, revenir sur le chiffre annoncé concernant justement le personnel soignant non vacciné. Mmh. Parce qu'en l'occurrence, donc on parle principalement, et d'ailleurs on ne parle que des soignants suspendus, donc là on comptabilise du coup que les titulaires de la fonction publique et ceux dans le secteur privé.
D'accord.
Par contre, on ne parle jamais des libéraux et des titulaires en CDD pour qui les contrats ont pris fin.
D'accord.
Donc ils ne sont pas comptabilisés dans aucun des chiffres. Et concernant les libéraux, donc plus spécifiquement les kinésithérapeutes me concernant, on faisait beaucoup donc un travail d'amont pour éviter justement les engorgements dans les hôpitaux. Donc on fait des soins à domicile, on voit des personnes en fin de vie, on fait beaucoup de kinésie respiratoire, et ça permettait aux personnes concernées de rester à domicile. Donc depuis l'année dernière, donc nous on a dû faire pour ceux qui ont refusé la vaccination, on a dû faire de l'abandon de patientèle parce qu'on a été interdit en libéral de se faire remplacer même par des kinés vaccinés.
J'ai des chiffres hein, pour les libéraux du ministère de la Santé. Alors je sais pas s'il est... Voilà, bah oui, 374 000 personnels soignants libéraux en France, 1350 sont interdits d'exercer parce que non vaccinés. Donc 1350 sur 374 000, et parmi eux, 160 médecins.
Mais ça, je sais pas, Julie, mais en fait, on va pas se battre sur les chiffres, mais vous, par exemple.
L'assurance maladie.
Si vous aviez continué d'exercer en tant que kiné non vacciné, vous risquiez quoi?
Je risquais une amende de plusieurs milliers d'euros et 6 mois d'emprisonnement.
D'accord. Et jamais vous ne vous êtes dit je vais me faire vacciner pour pouvoir continuer à exercer mon travail?
Non, pas basé. Alors déjà comme beaucoup de non-vaccinés, c'était le non-recul qui est le non-recul de la vaccination qui m'a fait prendre cette décision, mais surtout la forme dont ça a été fait. Pendant un an et demi, quand même, pendant la pandémie, on a donné tout ce qu'on avait à domicile. C'était très, très dur. On avait très peu de moyens. Et du jour au lendemain, on a reçu une lettre en nous disant que si on continuait d'exercer sans être vacciné, voilà, on encourait 6 mois d'emprisonnement et des milliers d'euros d'amende. J'ai trouvé ça d'une incohérence complète, d'autant plus qu'à ce moment-là, les gens qui étaient positifs asymptomatiques pouvaient aller bosser.
Mais voilà. Julie, vous, j'imagine que vous n'êtes pas resté 2 ans sans salaire, donc vous êtes reconvertie dans un autre métier ?
Oui, j'ai ouvert du coup une entreprise.
D'accord, qui fait quoi ?
Des massages à domicile. Dans l'un dans l'autre, c'est une reconversion qui va dans le même sens que la kinésithérapie, mais qui m'autorise à exercer du coup.
Et Julie, si jamais il y a la réintégration des soignants non vaccinés, est-ce que vous allez reprendre votre travail d'avant, c'est-à-dire kiné en libéral ?
Bien sûr. D'accord. Comme tous les soignants non vaccinés qui se sont reconvertis que je connais. Bien sûr.
Bah merci beaucoup en tout cas Julie pour votre témoignage. Oui,
je me permets de revenir sur le chiffre. Au 1er novembre, ça, ce sont des chiffres donnés par l'assurance maladie, 96,7% des professionnels de santé libéraux, médecins, infirmiers, masseurs, kinés, orthophonistes ou orthoptistes, entre autres, étaient vaccinés.
On est avec Alex qui nous appelle de Paris et qui est étudiant en médecine. Bonjour Alex.
Bonjour à tous.
Alors Alex, vous souhaitez réagir sur ce débat. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés ? Vous en pensez quoi, vous, en tant qu'étudiant en médecine ?
Moi, c'est toujours pareil. Hein. Je me dis, maintenant qu'on a du recul en plus sur les vaccins, pourquoi, si vraiment il y a cette volonté de revenir à l'hôpital ? Et je pense qu'effectivement, on manque de bras à l'hôpital, les lunettes supplémentaires est toujours bienvenue. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas se faire vacciner maintenant ? Je peux comprendre que ça ait fait peur au début, surtout qu'il y avait un contexte de crise majeure, on n'avait pas de recul sur le vaccin. Aujourd'hui, ça n'est plus tellement le cas. L'écrasante majorité des soignants sont vaccinés. Il y a encore un bénéfice à la vaccination. Le dossier, il est classé, comme disait un...
Oui, sur les formes graves, mais pas sur la contamination.
Il est classé aussi parce que tout le monde est allé se faire vacciner. Et parmi tous les soignants qui se sont retroussés les manches, qui ont pris des risques, moi j'en fais partie, et je connais plein de gens qui en font partie, on s'est même pas posé la question d'aller se faire vacciner. Donc que ça fasse peur dans un premier temps, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il y a encore un bénéfice pour la population générale à aller se faire vacciner. Par exemple,
pas sur la contamination, c'est ce que disait Laurent Andrieux. C'est-à-dire que vous, Alex, vous êtes vacciné, vous pouvez quand même contaminer un patient.
Oui, si je suis vacciné et que je contracte le Covid, je peux être contagieux, effectivement. Mm-hmm. Mais étant vacciné, j'ai quand même une bien moindre grande probabilité à contracter le Covid et donc à contaminer mes patients. Moi, je travaille dans un service de gériatrie. C'est quand même la base. Mais je trouve même dans n'importe quel hôpital, vous allez vous faire soigner. C'est quand même normal de vous dire que les gens qui vous soignent, qui vous encadrent, bénéficient eux de la protection maximale. C'est-à-dire, ils ont la chance la plus faible possible de contracter le Covid et peut-être, oui, de vous le transmettre.
Moi, je suis d'accord, Alex, qu'on a le recul sur ce vaccin, mais ce recul, il n'est pas uniformément positif. Et par exemple, j'entendais récemment le docteur Martin Blachier, expliquer qu'on avait de manière totalement documentée la preuve que ce vaccin perturbait très sérieusement les cycles féminins.
C'est un homme, Alex.
Oui, et alors ?
Non, d'accord.
Mais là, on parle de manière générale, pardon.
Oui,
on n'avait pas, pour le coup, pas la certitude qu'il n'impactait pas la fertilité à long terme. Donc, je suis désolé, il y a quand même des raisons, notamment de la part des femmes, d'être prudent.
Mais vous, Alex, est-ce que ça vous gênerait de travailler avec des soignants non vaccinés qui seraient réintégrés ?
Oui, tout particulièrement là en gériatrie, parce qu'on a beaucoup de patients fragiles, des patients qui sont pas forcément en fin de vie, hein, d'ailleurs, hein, qui rentrent chez eux mais qui peuvent être sur une phase aiguë assez dans un état assez altéré. Oui, ça serait complètement, ça serait tout à fait farfelu de me retrouver avec quelqu'un qui serait du coup très à risque de contracter le Covid et de le propager dans le service. Déjà, on teste tous les patients qui arrivent, même vaccinés, on les teste pour les isoler s'ils sont testés positifs. Et je trouve que c'est un non-sens. Et je suis pas insensible à toutes les personnes qui souhaiteraient reprendre le travail. Mais je les invite vraiment à simplement se faire vacciner, puisqu'il y a pas de, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a pas de, ça tombe pas comme des mouches, hein. On est tous en
santé.
Et moi, en revanche, sur le cycle menstruel, moi, les études que j'avais vues, je sais pas si c'est les mêmes ou si vous aviez des données plus récentes, c'est qu'effectivement, ça pouvait augmenter de 1 à 2 jours la durée des règles. De là à dire que ça avait un impact majeur sur la sexualité des femmes.
Non, mais c'est quand même la preuve qu'il y a des incidences non maîtrisées et non expliquées. Voilà.
Enfin,
c'est
par
tout.
Rapport à l'efficacité.
J'ai mis trois doses. J'ai mis trois doses et deux fois le Covid.
Non, mais d'accord. On ne sait pas que deux ans et demi après le début de la pandémie.
Non, mais les plus grands médecins vous disent qu'on ne sait pas.
Encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais tous
ne disent pas qu'on ne sait pas.
Non, mais on ne sait pas. J'ai mis trois doses. Je ferai la quatrième. J'ai vacciné mes enfants. Je suis vacciné. Je suis pour le vaccin. Qu'on vienne pas me dire qu'on sait 100% de ce qui se passe.
Non, mais
des grandes sommités, des grandes sommités vous disent on ne sait pas 100%.
Comme pour tout vaccin, comme pour tout médicament, il y a le rapport bénéfice-risque.
Mais il est acquis. Il est acquis. Personne ne s'en fasse. Mais qu'on vienne pas me dire que c'est impeccable et c'est sans risque.
Non, c'est tout. On va remercier Alex qui nous a appelé au 32-16 et on va terminer. Et c'est très intéressant.
Donc ils continuent à être punis, là, les autres. Ils ne sont pas vaccinés. Ils restent dehors. On est en train de crever dans les hôpitaux, mais il ne faut pas qu'ils y aillent. Pour
enfin, on parle de combien de personnes?
Et alors?
Et alors quoi?
Je suis désolé, mais tout renfort est bon à prendre aujourd'hui.
Mais tous les médecins sont contre.
Mais avec cette mentalité-là, ils seraient 15 000, ça serait la même chose. Hein, ils ne viennent pas. Ils seraient 100 000. Bah, ils ne viennent pas parce qu'ils ont refusé. Donc non, ils sont punis jusqu'au
100 000,
bout.
100 000, on les laisserait.
Ah bah tiens, alors qu'à la Ouida, 100 000, on les reprend, mais 4 000, c'est pas
je
la peine.
Je pense que 100 000, on les reprendrait. Mais 100 000, on va terminer avec Nathalie. Taisez-vous, Nathalie, qui nous appelle de Nantes. Bonjour Nathalie.
Bonjour, on se croirait à l'Assemblée.
Oui, mais oui.
On s'insulte pas.
C'est ça.
On se dit pas de gros mots.
J'ai pas dit faire. Fermer là.
Voilà, exactement. On se dit taisez-vous, mais en souriant.
Puis on a raison en plus. Voilà.
Nathalie, alors attendez, mais taisez-vous parce que Nathalie, elle est dans un cas très particulier. Vous êtes infirmière en disponibilité, Nathalie, et en fait, vous songez à aller exercer en Suisse.
Tout à fait. Moi, ça fait des années que je suis en disponibilité, bien avant cette crise. Déjà, c'est en mal-être au niveau de l'hôpital, au niveau de ma profession, c'est très compliqué. Donc, je me suis arrêtée quelques années pour élever mes enfants.
D'accord.
Suite à ça, quand j'ai repris ma bise, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pour alléger ma charge mentale.
Mm-hmm.
Et donc, depuis 8 ans, je travaillais en tant qu'intérimaire et aide-soignante.
D'accord.
Donc, là, avec l'arrivée de l'obligation vaccinale, à partir du 15 septembre, je n'ai plus pu avoir accès aux établissements et plus travailler.
Voilà. Ok. Et donc en Suisse, en revanche, vous pourriez travailler?
Alors, je suis allée déjà postuler en Belgique au mois de mai.
Ouais.
Il se trouve qu'eux ont eu obligation vaccinale à partir de juillet. Ils n'en tiennent plus qu'à. Et bon, je ne suis pas allée du coup en Belgique, même si j'avais eu une offre de proposition.
Mm-hmm.
Et là, en septembre, je suis allée postuler en Suisse. Et là, j'attends mon ordre de mission pour aller en Suisse, en sachant qu'on est plusieurs de Nantes déjà, qui travaillaient initialement au CHU, qui ont pris des dispos et qui travaillent aujourd'hui en Suisse.
D'accord, alors ça c'est assez incroyable quoi. Voilà, de voir des soignants français qui vont en Suisse qui ne sont pas vaccinés et que là-bas c'est effectivement c'est
pays,
autorisé
pays très rapidement.
Je ne parle pas de Nathalie qui elle pour le coup a quitté la fonction publique. Par contre, que des fonctionnaires se mettent en dispo pour aller bosser en Suisse tout en gardant potentiellement le bénéfice du retour à la fonction publique, il y a un moment, c'est pas le sujet du jour, mais c'est aussi un problème. Je ne parle pas du cas de notre auditrice qui elle n'est évidemment pas dans cette situation-là, mais effectivement qu'on peut vraiment faire des choix, on assume des choses.
Oui, alors en même temps, juste pour les défendre, Pierre-Edouard, le problème c'est que en fait quand vous êtes soignants non vaccinés dans les CHU ne vous virent pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous perdez votre salaire, mais vous n'êtes pas viré, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher l'indemnité chômage, etc. Donc ça, non, mais à un moment, tu peux avoir la.
Mais là où vous rejoindrez mes camarades, à partir du moment où ils sont exclus parce qu'ils ne peuvent plus exercer, qu'ils quittent la fonction publique, qu'ils exercent à l'étranger.
Les CHU ont qu'à les virer, comme ça, en fait, pour que les choses soient claires.
Le CHU les vire, mais pas la fonction publique hospitalière.
Ils sont en charge du travail.
Ils sont moins bien traités qu'un député LFI qui a giflé sa femme.
Oui, ça, c'est un autre.
Qui ne vient pas travailler, mais qui touche quand même son traitement.
C'est un autre débat. Il n'a pas travaillé, mais peut-être qu'il bosse de chez lui. Vous voyez, c'est le télétravail.
S'il ne vient jamais, il ne va plus avoir son indemnité. Hein, parce
on vous a posé la question sur le compte Twitter. Taisez-vous, d'Estelle Midi. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Ça donne quoi, Rémi?
Mais c'est Louis qui l'emporte assez massivement. Hein. C'est oui, il faut les réintégrer pour 69% de ceux qui se sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
On a gagné.
Non, c'est pas ça.
Ça sent le vendredi. Hein.
Bon, dans un instant, ça c'est juste pour Pierre-Edouard Magnan. On parlera de l'augmentation des patrons de CAC 40 plus 52% en un an. Est-ce qu'il faut se réjouir de ces augmentations? Il y en a un qui gagne quand même plus de 60 millions d'euros par an. Est-ce qu'il faut se réjouir de ces augmentations ou les déplorer? A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Perry Collégas, Pierre-Édouard Magnan et Laurent Dandrieu. Dans un instant, on parle de l'augmentation, énorme augmentation des patrons du CAC 40. Mais avant cela, petit détour par Doha, la Coupe du Monde et ce match entre le Pays de Galles et l'Iran, Morgane Maury.
C'est la 74e minute, Estelle. Score de parité 0-0 entre les deux équipes. L'Iran qui pousse énormément dans cette partie. Énorme triple occasion il y a quelques instants. Azmoun, qui était face au gardien, a touché le poteau droit. 5 secondes plus tard, c'est son coéquipier Golizadeh sur une frappe de l'extérieur de la surface qui a touché le poteau gauche, et ensuite Azmoun, encore lui, une tête sortie par NSC, le portier gallois. L'Iran qui doit l'emporter pour garder ses chances de qualification intacte en 8e de finale. 0-0 entre le Pays de Galles et l'Iran, c'est la 74e minute à Al Rayyan.
Le match Pays de Galles-Iran est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Et on va tout de suite s'intéresser à l'augmentation du jour. Dans Estelle Midi, c'est celle des patrons du CAC 40, plus 52% en un an, c'est un record. La rémunération moyenne des PDG du CAC 40 représente désormais plus de 100 fois la rémunération moyenne des salariés, Rémi.
Mais tu l'as dit, jamais elle n'a été aussi élevée. En moyenne, chacun d'entre eux, de ces patrons du CAC 40, a perçu 7 900 000 euros l'an passé. Cela inclut tous les revenus, hein, salaire fixe, bonus annuel, rémunération pluriannuelle de long terme, attribution d'actions, avantages en nature. Tu l'as dit également, c'est plus de 100 fois le salaire moyen de leurs salariés. C'est ce que précise ce rapport publié par le cabinet de conseil aux actionnaires Prox Invest. 7 900 000 euros, cela veut dire que la rémunération totale moyenne des patrons du CAC 40 a augmenté de 52% comparé à la précédente période de référence, l'année 2019, avant le Covid. Des rémunérations qui explosent justement, porté par les très bons résultats post-Covid des sociétés en 2021. La hausse s'explique également par un effet Carlos Tavares, le directeur général du groupe automobile Stellantis, Peugeot, Citroën et Fiat, dont la rémunération totale atteint un record jamais observé. 66 700 000 euros de rémunération en 2021 pour ce seul homme. Suivent Bernard Charles de Dassault Systèmes, 44 millions d'euros. Daniel Julien de la société de centre d'appel Téléperformance, qui lui a touché plus de 20 millions d'euros. François-Henri Pinault du groupe de luxe Kering a touché lui 12 millions d'euros. Et Paul Hudson du laboratoire pharmaceutique Sanofi, 9 millions d'euros.
Petit joueur.
Il fait bon être patron du CAC 40. Alors, ces augmentations, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou le déplorer, Pierre-Édouard Magnan?
Vous voudriez bien que je m'en réjouisse.
Oui, j'aimerais bien.
Je pourrais m'en réjouir si les hausses de salaire de ces patrons étaient à la même échelle que celles de l'ensemble de leurs, à minima de leurs salariés, voire de l'ensemble des salariés français. Évidemment, blague à part, c'est évidemment un scandale, et c'est un scandale sur deux aspects. D'abord, c'est le signe manifeste d'une croissance colossale des inégalités dans notre pays. Alors, c'en est le signe le plus extrême, les 66 millions de Carlos Tavares. Enfin, on est dans Ubu, ou on est dans le délire. Enfin, je sais pas où on est, mais en tout cas, on n'est pas dans la vraie vie. À l'heure de l'inflation que nous connaissons, eux la subissent, mais quand on a son salaire qui monte de 52%, évidemment, on vit pas pareil une inflation à 7-8% ou plus de 10% des produits alimentaires que quand on est au SMIC. On nous explique gaillardement que quand le SMIC prend 3 ou 4%, c'est déjà un magnifique cadeau. Et puis, pareil, dans une société où on nous explique que les allocataires du RSA ou que les chômeurs dont on vient de baisser les allocations il y a deux jours, sont des profiteurs qui vivent au crochet de la nation. Ces gens sont des profiteurs du système, alors qu'ils ont créé, auquel ils contribuent à entretenir.
Bah oui,
certes, sauf que M. Tavares, à ce niveau-là, on ne crée pas d'emploi. Un PDG d'une entreprise de cette taille fait de la stratégie, fixe des grandes orientations, mais il ne crée pas d'emploi, il ne construit pas de voiture. Je m'arrête là, mais c'est évidemment scandaleux, et évidemment qu'il faudrait mettre des normes, parce que 1 à 100 est un pourcentage inacceptable. Ouais. Même Henry Ford, qui était quand même pas vraiment un bolchevique de première catégorie, non, et c'est peu de le dire, considérait, je crois, que le maximum tolérable était de 1 à 25, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, enfin, 25, vous n'aurez jamais un grand PDG en France si vous le payez.
On trouvera des gens qui ne sont pas PDG aujourd'hui, qui sont très contents de gagner 25 fois le SMIC.
Ouais, en fait, si tu payes un PDG 30 000 euros, crois-moi que tu n'auras personne.
Bah, tu trouveras d'autres personnes. Le mérite ne s'évalue pas à la fiche de salaire. Ça, c'est très français de considérer que plus on est payé cher, plus on est intelligent, ce qui est parfaitement faux.
Bon. Perry Collégas, non mais c'est vrai que après, bon, évidemment que les patrons soient augmentés quand leur entreprise marche, bon, ok, tout le monde peut être d'accord, mais 60 millions d'euros pour un patron. Mais on se demande à quel moment il se dit pas, ouais, peut-être que c'est trop, je vais quand même en donner au moins la moitié, quoi.
Alors, il y a deux façons de voir la bouteille. Elle peut être à moitié pleine ou à moitié vide.
Tout à fait.
C'est plutôt un signe de bonne santé économique. On s'amusait il y a 20 ans, à l'événement du jeudi à Marianne, à comparer, c'est déjà les grands patrons, Monsieur Zacharias, qui était PDG de, des fameux des parkings.
Vinci.
Et on avait calculé qu'un smicard devait avoir travaillé depuis Clovis, pour avoir le même salaire annuel. Voilà. Là, avec Tavares, c'est depuis Nefertiti, à peu près, qui doit travailler depuis Ramsès II. C'est une proportion énorme. Alors moi, je dirais, je lui donne 120 millions d'euros par an. Mais le fils passe derrière, je lui prends 80%. Et plus...
Il est taxé quasiment à 50.
Eh bien, je lui prends 80. Et je dis à Stellantis et à tous ces groupes, allez-y, 200 millions, mais moi je reprends tout. C'est tout. À la République, puisqu'on joue à ce jeu-là, on peut pas empêcher une société libérale de fixer le salaire de son patron, n'est-ce pas ? C'est la règle du jeu. Mais moi, le fisc de la République, je passe derrière. Ensuite, évidemment.
Bravo, camarade.
Évidemment. 60. Est-ce qu'on peut reprendre un tout petit peu de recul ? Est-ce qu'il en a vraiment besoin ? J'ai
non,
même envie de
non,
dire.
Non, mais attendez, Périgaud, est-ce que vous avez vraiment besoin de votre pige ?
Non. Je vais 60 millions, j'ai envie de dire.
Comment ça ?
J'ai envie de dire, mon chéri, t'en fais quoi ? T'arrives à le placer, 60 millions, voilà, donc en plus.
Ah, 60 millions à un
alors, je ne sais pas, en plus, comme il est citoyen portugais,
oui.
Est-ce qu'il est arrivé à se faire garder une résidence au Portugal ou quelqu'un serait. En tout cas, 60 millions d'impôts, c'est vrai que c'est indécent. En même temps,
non, pas d'impôts.
60 millions de revenus.
Là, on est d'accord.
C'est vrai que c'est moralement indécent. Oui. Mais alors, est-ce qu'on peut l'accepter en termes économiques ? Oui, à condition
qu'il... Tellement...
Non mais attendez, ouais. Il faut une redistribution.
Bon,
la réponse est qu'il faut redistribuer ça.
Voilà.
Soit il dit de lui-même, j'en garde 25. Et je donne 35 à mes salariés.
Ça. Il se fait une image de malade.
Moi, je ne comprends pas à quel moment ces gens-là ne se disent pas, certes, si les résultats sont bons, c'est peut-être à cause de décisions stratégiques bonnes que j'ai prises, mais après tout, l'entreprise est composée de gens qui ont travaillé, qui ont fourni un effort pour obtenir ces bons résultats. Et que donc, si moi je suis augmenté de 30%, et tous les salariés de la boîte vont être augmentés
mais
de
30%. Même ces cadres qui ont participé.
Y compris le balayeur et le coursier. Et que donc... j'ai découvert, moi, par exemple, les trois principaux PDG là, qui sont en tête du classement, il y a tous de l'intéressement dans l'entreprise, mais Kering, par exemple, il y a de l'intéressement que depuis cette année. C'est quand même effrayant. Et donc voilà, je pense qu'il y a un vrai problème.
Kering, c'est l'épineau, c'est la famille.
De la croissance.
Et Tavares, c'est un salarié. C'est un petit salarié.
Grand patron.
Mais non, mais c'est des salariés.
Statutairement, c'est un petit salarié.
C'est pas ses salaires qui font 60 millions.
C'est pas lui qui a fait Peugeot Citroën. C'est pas lui qui a créé la boîte. C'est pas lui, rien. C'est un gérant.
Et en fait, il
il a bien géré parce qu'il
est un entrepreneur qui crée une boîte, il n'a pas de vrai risque. C'est-à-dire
vous imaginez
si la boîte se casse la gueule,
simplement.
Il doit avoir un parachute doré.
Surtout que le parachute doré,
Estelle,
mais très rapide.
En période de fracture sociale avec la détresse qu'on a dans le pays, vous imaginez l'image que le capitalisme libéral envoie au peuple français.
Ne m'engueulez pas, je suis d'accord avec vous.
Tu te réveilles, camarade.
Je sais que vous serez capable de les gagner.
J'aimerais bien les gagner, ça
serait.
Mais je vous en
distribuer
une petite partie, faut pas déconner non plus. La rémunération record des patrons du CAC 40, vous jugez ça réjouissant ou déplorable ? C'est la question qu'on vous a posée.
Suspense.
En cette période d'inflation, de vie chère, etc., de salaires qui ont du mal à augmenter, c'est le déplore qui l'emporte.
Oui, mais pas de beaucoup. Hein.
70% quand même.
Ah oui, non, c'est
oui,
pas
bien. Moi, je pensais que ça allait être 98%.
Les Français
parce que ça veut dire que les entreprises françaises sont aussi en bonne santé. Et ça, c'est
et on est aussi dans un pays où, quand on voit ça, avant d'être choqué, tout le monde rêve de pouvoir un jour en faire autant. Tout le monde est convaincu qu'un jour, il gagnera au loto, même ceux qui n'y jouent jamais.
Bon. Dans un instant, alors tout autre sujet, hein. Anthony Morel qui viendra nous parler d'une révolution dans la raclette. On va parler de la raclette 2.0, nouvelle technologie.
Enfin un sujet de fond.
On fait leur entrée dans la raclette. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 47 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
Ah. RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, vous êtes face à un immense défi. Vous allez essayer de faire rimer technologie et raclette.
Deux de mes passions dans la vie. Non, c'est vrai, ça rime pas du tout d'ailleurs. Et Perico me lance déjà des poignards dans le regard, je le vois.
Il prend son souffle.
Ben oui, parce que figurez-vous que même sur quelque chose aussi proche du terroir que la raclette, l'un des plats préférés des Français, ben oui, l'innovation a un rôle à jouer. On va commencer par le plus extrême, et puis après on va revenir vers des choses plus proches de nous. Ah. Le plus extrême, et ce qui m'a donné l'idée de cette chronique, c'est le roboclette. Le robot comme ça, hein. Conçu pour servir de manière optimale la raclette. Ce sont des Suisses qui l'ont mis au point de manière assez logique.
Les images sur RMC Story, elles sont incroyables.
Donc je vais les écrire. En fait, c'est une paire de bras robotiques. électrique qui est couplé à un appareil à raclette, mais vous savez, celui des pros, celui des restaurants, pas le petit machin avec des poêlons, là, le vrai avec la meule de fromage qui coule.
Oui.
Eh oui, la résistance électrique. Et donc, en fait, ce robot, on lui a montré, c'est un maître racleur, le monsieur qu'on voit là, c'est vraiment un professionnel.
C'est vraiment un métier.
Ah, c'est un métier.
C'est une niche.
C'est une niche. C'est une niche.
Pas dans la vie, je suis maître racleur.
C'est bon quand même comme métier. C'est un très beau métier. Et donc, ce monsieur, il a montré précisément le geste à réaliser au robot et le robot réplique ce geste au millimètre près pour faire couler le fromage de manière optimale en fonction de la façon dont il est déjà entamé, en fonction de la texture du fromage. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Alors ça peut sembler un peu gadget. En fait, ce robot, il va avoir
beaucoup de place, quoi.
Alors ça prend beaucoup de place à la maison.
Grâce à ça, il y a plus de trous dans la raclette.
Comment ça ?
Quel trou ?
Non, c'est un
c'est une blague, d'accord.
Trou dans la raquette.
C'est excellent.
Ce robot, en fait, il sert pas qu'à la raclette. C'est pour montrer qu'on est capable de faire des robots qui peuvent reproduire les gestes humains très précisément. Ah. Et on va s'en servir, par exemple, à des fins chirurgicales. Par exemple, pour une opération à distance, eh ben, le robot va être capable de répliquer les gestes d'un chirurgien qui se trouve à des centaines de kilomètres de là. Ouais. Pour de l'aide à la personne également. On va montrer au robot les gestes et il va être capable d'aider une personne âgée à s'habiller ou à se lever de sa chaise. Enfin, voilà.
Ça semble déjà un peu plus important.
Oui, mais c'est pour ça. Oui, mais ça a toujours le petit effet waouh quand vous montrez avec la raclette.
Faut pas oublier de retirer le bistouri juste au moment où on fait la raquette, c'est plus une blessure, c'est bon.
Oui, c'est bon,
on est d'accord que personne n'achètera ça, Anthony. Donc, est-ce qu'on peut avoir des innovations un peu plus utiles pour nous?
Bah, il y a eu pas mal d'innovations ces dernières années quand même dans les machines, dans les appareils à raclette. Alors déjà, le truc qui existe depuis longtemps.
Ah, la pierrade au-dessus.
Alors il y a la pierrade au-dessus, ça c'est vrai. Non, il y a l'appareil transparent. Vous avez tous ça, non? L'appareil transparent.
Pas du tout. Moi j'ai un appareil, mais non.
Bah attendez, vous rigolez ou quoi? Un appareil à raclette transparent, c'est beaucoup mieux l'appareil transparent parce que vous voyez la fonte du fromage en temps réel.
Donc, c'est génial.
Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder toutes les 3 secondes si c'est fondu ou pas. Bah non, mais c'est extraordinaire.
Mais les gens ont ça.
Mais bien sûr.
On n'en a jamais parlé.
Ah bah, c'est pour ça que cette chronique existe, figurez-vous.
Alors,
vous
avez aussi une raclette transparente chez Estelle.
Non, mais vous avez aussi la problématique de plus en plus importante de le coût de l'électricité, la consommation électrique. Alors, vous avez une alternative qui est la raclette à la bougie.
Ça faut avoir le temps.
Alors, ça prend un petit peu plus de temps.
Tu commences ta raclette à midi et tu manges ton bout de fromage à 5h.
Non, c'est vrai que c'est un peu plus lent. C'est vrai que c'est un peu plus lent, mais c'est pas si lent que ça non plus, et ça fonctionne. Donc on remplace en fait l'appareil électrique. C'est joli, il y a un petit côté romantique, voilà, pour une raclette en duo. Et puis on n'est pas limité par le nombre de places autour de l'appareil raclette. Alors l'appareil raclette portable.
Qui fait des raclettes en duo?
Si,
concept de raclette romantique.
Mais même tout seul.
Mais qui fait ça?
Bah moi.
Du tout. Ouais, raclette, ça se mange
au moins à 8. Vous aimez la raclette, vous faites de la raclette.
Non, c'est vrai, moi j'ai une femme qui adore la raclette.
Vous faites des raclettes à deux?
Ça peut nous arriver, bien sûr.
Ça donne une tristesse.
Mais non, moi j'adore.
Je peux vous dire qu'avec du vin blanc qui va avec, c'est pas triste du tout.
Voilà, petite bouteille de vin de Savoie et ça passe tout seul, il n'y a pas de problème. Alors l'appareil raclette portable, très malin aussi, qui s'appelle l'apéro cheese. Donc il se monte et il se démonte très facilement. Il y a un petit poêlon pour une ou deux personnes. On peut mettre ça dans un sac à dos, partir en randonnée par exemple, et tout ça est alimenté avec sa raclette, avec un gel combustible en fait qui alimente
la raclette,
le fromage
de la montagne.
Mais oui, c'est génial.
Une petite raclette en solitaire, ça fait pas de mal.
Il y a pas de mal à se faire du bien.
Et alors, vous savez qu'on utilise nos smartphones pour tout, et même aujourd'hui pour la raclette.
Absolument. Hein. Alors pas comme poêlon, ça je vous le conseille très clairement. Mais en revanche, il y a des applications et des sites très intéressants. Mais si, je vous jure, Raclette World par exemple. Raclette World, c'est un site qui vous permet d'optimiser la quantité de fromage, de pommes de terre et de charcuterie pour la raclette. Parce qu'on sait jamais quand on est au magasin, combien
je prends trop.
Il y a des restes pour 3 jours après. Alors là, en gros, vous entrez, puis en plus,
ça congèle.
Non, mais après, il y a des paramètres en plus, et voilà, je reçois Jean-Michel,
ta raclette.
Il mange comme deux.
Le fromage à raclette.
Puis la machine, elle est végétarienne, alors voilà, il faut s'adapter et tout.
Le fromage se congèle.
Ah oui, c'est compliqué. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que vous rentrez les différents paramètres, les différents appétits, les différents.
Ça passe, hein.
Non, pour les véganes, je crois que non, on n'a pas le droit végan. Végétarien, ça passe. Végétarien, ça passe.
Végan, non, ça n'a pas le droit. Végan, le fromage.
Il y en a au soja. Le fromage. La crème de soja.
Oui.
En raclette transparente.
Il y a du fromage, maintenant, vous avez froid. Enfin, bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là.
Le fromage. Il y a d'autres applis ou pas?
Oui, des applis. Alors, donc, celle-ci fonctionne vraiment pas mal. Donc, vous allez pouvoir l'optimiser. Et l'autre, si, c'est pas mal. Et l'autre qui s'appelle, alors ça, je trouve ça génial, le Chizam, c'est le Shazam du fromage.
Oh, c'est génial.
C'est les Français qui ont inventé ça aussi, forcément. Les Britanniques ont mis au point Shazam, nous on a Chizam. Et donc, en gros, vous pointez votre téléphone sur un plateau de fromage, il va reconnaître un maroilles, une fourme d'Ambert, enfin tous les fromages différents. Voilà, c'est en cours
c'est
de développement.
C'est comme Vivino pour le vin.
C'est comme Vivino pour le vin, exactement. Et ça vous dit aussi quel type de vin peuvent se marier avec les fromages. Voilà, donc c'est un outil qui est en cours de développement, mais je voulais leur faire un petit salut, un petit coup.
Ah, mais je vais la télécharger direct.
Moi, je suis heureux qu'en France, on invente des startups comme ça.
Bah voilà, c'est forcément.
Chizam,
donc C-H-E-E-Z-A-M.
J'y vais direct. Pourquoi vous êtes effondré? Chizam, c'est génial. Il y a plein de gens, ils savent même pas ce qu'ils mangent comme fromage. Bah quoi, Péricot, oui.
Culture personnelle qui s'acquiert sur le terrain en apprenant, en écoutant, pas avec des appareils électroniques qui vous disent le goût du vin et le nom du fromage.
Non, mais quand t'as un plateau de fromage, tu regardes et tu dis est-ce que c'est une fourme, est-ce que c'est un roquefort.
C'est un dictionnaire.
Non, mais c'est la fin du monde, quoi.
Mais non, je suis pas d'accord. C'est une sorte d'éducation.
C'est comme une encyclopédie que tu as toujours avec toi. Voilà.
C'est une éducation.
T'es pas contre les encyclopédies sur le fromage ou sur le vin. Bah c'est exactement la même chose.
Il a
c'est
pas limite.
C'est limite. Ça
et puis ça te donne la provenance du fromage, tu vois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. T'apprends des choses, Péricot.
Je pense que si on y met pourtant, j'ai pas touché à la recette de la raclette. T'as vu, c'est vrai. C'est
manquait plus qu'il morde.
Sommaire comme recette. Non, mais je sais. Fromage, un poêlon.
Manquait plus qu'il morde.
Sur un poêlon.
Manquait plus qu'il morde.
Merci, Anthony Morel.
Avec plaisir. Lundi, on va parler antibiotiques. Voilà, on va parler des. Alors oui, c'est vrai. D'abord, et puis il y a le problème de la résistance aux antibiotiques. Et donc il y a plein de startups qui travaillent sur des technologies qui vont permettre aux antibiotiques d'être beaucoup beaucoup plus efficaces.
Voilà. Ça me passionne. Merci beaucoup, Anthony Morel. On a hâte d'être avec vous lundi. Dans un instant, on va parler de l'interdiction à Paris désormais pour les mineurs d'utiliser des trottinettes électriques en libre service. Mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin et interdire ces engins pour tout le monde? Donnez-nous votre avis au 32-16. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi juste après cette courte pause.